Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Et allons-y, nous sommes donc le 28 septembre 2019, un grand bonjour à vous toutes et à vous tous, et bienvenue sur RMC, bienvenue dans ce week-end des experts. On est ensemble jusqu'à 9h, et oui, pourquoi 9h? Et bien parce qu'à partir de 9h, vous retrouverez le rugby, la Coupe du Monde de rugby au Japon, avec toute la Dream Team RMC pendant quelques semaines, ce sera le cas, donc pas de rendez-vous vie numérique avec Raphaël Grabli, même punition pour demain avec l'automobile, hein, puisqu'elle se terminera à 9h. On va donc passer 3 heures ensemble avec au menu, bah, tout à l'heure, vous le savez, notre rendez-vous forme santé avec Christian Ekia. On va parler du yoga. À quoi sert le yoga? Tiens, est-ce que c'est véritablement une pratique dans notre quotidien qui peut nous apporter par exemple de la détente et de la relaxation? On verra ça. Le rôle de l'architecte dans la construction ou la rénovation de votre logement, ce sera notre gros dossier de ce rendez-vous maison. Et pour débuter, vous le savez, il m'accompagne chaque samedi entre 6h et 7h. C'est notre jardinier, sans doute l'un des meilleurs jardiniers de France, qui est avec nous et qui nous prodigue ses conseils. C'est Patrick Mulan. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue au jardin, qui est largement suffisant pour remplacer le yoga, je peux vous garantir.
Oui.
Voilà, ça rend zen, le jardinage.
J'aimerais bien vous voir en train de faire des positions de yoga.
Je déteste ça.
Patrick, vous détestez ça?
Mais oui, parce que bon, je trouve qu'on peut faire avec des choses naturelles beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux, mais aussi bien.
D'accord. Voilà. Bah, cela dit, quand on commence à jardiner et à se contorsionner dans tous les sens dans le jardin, c'est presque du yoga. Hein.
Voilà. Alors, peut-être que le yoga, en revanche, aiderait les jardiniers qui font des mauvais gestes.
Ah, peut-être.
C'est-à-dire à se remettre,
oui,
un petit
c'est
peu.
C'est ça, un peu se remettre d'aplomb.
Ça, c'est possible.
Bon, en tout cas, si vous avez une question yoga à poser à Christian Ekia, ça sera tout à l'heure, hein, Patrick, si ça vous intéresse.
Bah, pourquoi pas.
Je vous rappelle qu'on est en direct, il est 6h13 précisément, Patrick est à mes côtés et vous pouvez en profiter. Questionnez Patrick Mulan, notre jardinier. Comment se comporte votre jardin en cet été indien, en cette fin d'été, hein, ce début d'automne?
N'hésitez pas. On reste un peu quand même dans une
dites-le-nous.
Tendance estivale.
Oui, on verra tout à l'heure d'ailleurs la météo du jardinier. À tout moment vous pouvez joindre Patrick vos questions jardin. Vous avez le 3216 à votre disposition, 3216 le standard. Mais aussi l'appli RMC Direct Studio sur votre smartphone. C'est très simple, hein, vous lancez l'appli RMC, vous nous écoutez par exemple en 4G ou en Wi-Fi, et vous pouvez nous laisser un petit message avec votre numéro de téléphone. Il apparaît en temps réel dans ce studio. Tout à l'heure, nous allons évoquer, eh bien, dans notre sujet du jour, comment rendre son sol vivant, Patrick.
Mais ça, c'est une nouvelle notion, enfin, récente notion. Puisqu'avant, en fait, un sol s'était constitué dans l'esprit des gens, c'était juste constitué d'éléments minéraux. Et aujourd'hui, on essaye, et c'est la logique, d'en faire un écosystème qui va nous aider à améliorer nos cultures, à les rendre plus solides, à les rendre plus intéressantes. On va voir comment.
D'accord, ça sera tout à l'heure. On lisait la météo du jardinier, vos coups de cœur aussi de ce samedi matin.
Beaucoup de choses.
Et je vous le disais, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce week-end des experts jardins.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC.
L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour.
Oui, oui, oui.
Ça donne bonne mine. C'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
Oh, yeah. Il y a tout ça dans la tomate.
Tcha-tcha-tcha. Ah ben la tomate, oui, on en parlait avec Christian Ekia, vous verriez que au niveau santé, c'est très bien.
Les lycopènes, comme dit souvent Christian Ekia.
Le lycopène. Mais là, vous allez voir.
Ah.
On va encore aller plus loin.
Oui, alors je me demande si vous n'avez pas un peu fumé quelques substances bizarres, mon cher Patrick, en ce samedi matin, parce que vous allez nous parler des tomates bleues. Que s'est-il passé dans la famille Miu Miu hier soir?
Eh ben, vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu envie de faire ce sujet? Parce que je travaillais sur des photos que j'ai faites il y a l'année dernière au Conservatoire de la Tomate à Montlouis-sur-Oire, au château de la Bourdaisière. Et j'avais des tomates bleues. Alors, des tomates qui sont plutôt indigo, c'est-à-dire une sorte de bleu foncé, où on va dire, il y a du rouge, de toute façon, toujours un peu dans la couleur de la tomate.
D'accord.
Mais qui prennent vraiment un ton bleu à tendance sur le noir.
C'est dingue,
et
ça.
Je me suis dit, quand même, il faut aller travailler sur ce sujet-là, parce que c'est quand même assez rigolo, on n'a pas l'habitude. Alors, c'est vrai que la tomate est intéressante aujourd'hui au niveau de la coloration, parce que bon, on va mettre les rouges de côté, tout le monde les connaît, mais vous avez des tomates jaunes, vous avez des tomates oranges, vous avez des tomates vertes, striées, vous avez la fameuse aussi noire de Crimée, qui est un peu marron, et puis il y a les bleues.
Alors, est-ce qu'on peut dire quand même qu'il existe de véritables tomates bleues?
Alors j'ai déjà un peu donné la réponse avant, c'est-à-dire que c'est pas le bleu azur, c'est pas le bleu du bleuet, c'est pas le bleu du delphinium, c'est pas le bleu de la pervenche ou de l'aconite, non. C'est une sorte de rouge violacé, très foncé, qui tend vers le noir, mais qui, lorsque vous avez pas de soleil, eh bien là, donne vraiment une image bleu sombre, donc d'où le qualitatif qu'on donne aujourd'hui de ces tomates-là, qu'on appelle indigo.
Alors, mais comment a-t-on pu arriver à cette teinte? Est-ce que ça cache pas quelques manipulations un peu bizarres, quand même?
Je m'attendais à la question, parce que, évidemment.
Est-ce qu'il n'y a pas un savant fou, Patrick, qui a manipulé, les tomates?
Tout de suite dans ça, des OGM. Non. On n'a pas affaire à des OGM, ou même à une modification, on va dire, génétique, mais à des sélections. Parce que, la tomate, alors si on fait deux secondes de botanique, c'est dans le genre Solanum. Dans le genre Solanum, il y a énormément de plantes. Et vous en avez même qui ont carrément des fruits de couleur noire, comme la douce amère, par exemple, qui là est très toxique, mais qui donc ont ces pigments qui tendent parfois vers le bleu. Et en trouvant des tomates sauvages, un chercheur américain et un chercheur bulgare, en fait, ont, à l'université de Californie, créé en 2000, en fait, on va dire, des nouvelles tomates qui ont ces gènes indigo. Alors, ils ont utilisé des tomates du Chili, ils ont utilisé des tomates des Galapagos, en fait.
Ah oui.
Les tomates étant des plantes d'origine sud-américaine.
Mais pourquoi travailler à obtenir une tomate bleue? C'est juste par curiosité, en fait?
Alors, on pourrait croire cela, mais là, on va revenir justement dans le sens du lycopène, etc. Parce que ce qui est intéressant dans cette couleur indigo, c'est le pigment. Le pigment qui est une anthocyane ou des anthocyanes. Et ces anthocyanes sont des oxydants très importants, puisqu'ils arrivent à piéger ce qu'on appelle les radicaux libres. C'est donc, les radicaux libres, c'est des dérivés toxiques qui proviennent de la dégradation de l'oxygène. Parce que la vie est un truc assez bizarroïde, c'est que l'on a besoin absolument d'oxygène pour vivre, mais que l'oxygène est néfaste à nos cellules, qu'il oxyde. On entend le mot oxydation, il y a oxygène, donc il agresse, et les antioxydants, dont les fameuses anthocyanes, eh bien, vont contrebalancer cet effet nocif de l'oxygène. De l'oxygène.
Oui, de l'oxygène.
Donc voilà. Donc on est dans quelque chose qui potentiellement est très intéressant pour notre santé.
Mais est-ce vraiment utile? Car si je m'abuse, la tomate n'est pas le fruit le plus riche en anthocyanes.
Non. Par exemple, si vous prenez la myrtille, ou même les raisins noirs, ils sont nettement plus riches. La myrtille, c'est 20 fois une tomate bleue. Mais la tomate, c'est plus facile à cultiver.
Oui.
La tomate, c'est plus productif que la myrtille. Mmh. La tomate, c'est beaucoup moins cher. Et donc,
peut-être qu'on peut en manger plus souvent aussi que la myrtille, non?
En plus, vous avez raison, parce que la tomate, on peut la produire. Alors, on trouve maintenant un peu dans le commerce des myrtilles qui sont faites sous serre presque toute l'année, presque. Mais la tomate, elle, on arrive bien à maîtriser sa culture, et c'est une plante très répandue. Donc, c'est quand même très intéressant. Et donc, avec ces gènes, parce qu'il y a un gène qu'on appelle ATV, atrovioleum, et puis un gène qu'on appelle AFT, donc anthocyane dans le fruit, eh bien, on obtient, justement, donc ces fruits chargés de lycopène. D'anthocyane. Mais il y a tout. Alors, du coup, oui, j'ai un peu laissé de côté, le lycopène reste quand même
D'accord,
donc on est toujours là. Anthocyanes plus lycopène. Donc on a des tomates plus puissamment antioxydantes.
Depuis quand trouve-t-on des tomates bleues sur le marché, Patrick ?
Alors les premières sont arrivées vers 2012-2013 sur le marché. Alors sur le marché lui-même, chez les primeurs, je pense pas, mais on peut trouver donc des plants de tomates bleues chez des spécialistes qui sont des gens comme Bomo, par exemple, vont vendre des tomates bleues ou vous pouvez en trouver aussi à la Bourdaisière. Hein, si vous allez au conservatoire de la tomate, on vous vendra des graines de tomates bleues.
Bon, parlons quand même de l'essentiel gustativement. Qu'est-ce que ça donne des tomates bleues ?
Alors justement, le problème, c'est que c'est pas terrible. Alors du moins la toute première qui était sortie, qui s'appelait Indigo Rose, c'est pas vraiment génial. Bon, aujourd'hui, je peux vous en donner deux qui sont plutôt meilleures, même si elles sont pas exceptionnelles. C'est Indigo Apple. Alors Indigo Apple, c'est petit, c'est un peu le style tomate cerise. Et puis vous avez Blue Streaks. Blue Streaks, alors ça c'est des grosses plantes. D'une manière générale, d'ailleurs, les tomates bleues, comme elles sont originaires de tomates sauvages, elles sont beaucoup plus costauds.
Ah oui.
Vous avez des tomates qui font 2 mètres facilement de hauteur. Donc il faut aussi penser, ça va pas dans un petit pot, ça. Et Blue Streaks, ça vous fait comme un vrai fruit rond, bleu noir strié de rouge, et qui est assez juteux, même si c'est ferme. Alors, on va plutôt utiliser ces tomates-là dans des salades, ou d'ailleurs, bon, comme je disais tout à l'heure, avec des jaunes, des oranges, des rouges, tout ça, ça va vous faire quelque chose de très sympa, et puis donc, ça ne dominera pas. Mais bon, on continue à essayer les obtentions, et notamment la fameuse université de Californie, hein, parce que les deux que je viens de vous citer, c'est des obtentions de 2013, donc ça reste encore des tomates, on va dire, de première génération. Alors, peut-être qu'on n'arrive pas s'améliorer, parce que le problème, comment est-ce qu'on peut améliorer une tomate bleue au niveau gustatif? On va prendre une tomate ordinaire, rouge, très bonne, avec un goût formidable.
Et on va essayer
les croiser.
Mais sauf qu'elle va être moins bleue après.
Et ben exactement.
Ben voilà.
Donc il faut longtemps.
On est un peu dans la pagaille.
Non, parce qu'en recroisant et en recroisant, oui, on obtiendra. Mais il faut un petit peu de temps.
Bon, en gros, vaut mieux se prendre une bonne tomate bien rouge et bien bonne et bien mûre qu'une tomate bleue, finalement.
Ah bah si vous voulez vous régaler, oui, après. Non mais il y a aussi
non, mais c'est rigolo. Voilà,
c'est ça. Il y a le côté un peu anecdotique, sympathique.
Et puis c'est la mode, les tomates de toutes les couleurs, c'est ce que vous disiez un petit peu plus tôt. Patrick, il est 6h23, on revient dans un instant et on poursuit ce rendez-vous jardin avec vos questions. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez joindre Patrick Mulan, le 3216 à votre disposition, 3216 ou l'appli RMC et Direct Studio. Tiens, on a une petite question tomate de Mickaël qu'on va essayer d'appeler tout de suite. Hein. Il vient d'arriver sur Direct Studio. Et puis, juste après, on va changer de sujet, Patrick. Comment rendre son sol vivant ? C'est dans quelques instants. À tout de suite.
RMC.
6h-7h.
Wingardium Leviosa.
Ça ne marche pas, monsieur Ciccolini !
Ah si !
Votre jardin ?
Le sol tremble. Il est vivant.
Il est vivant !
Il est vivant ! Il est vivant ! Il est vivant !
Oui, il est vivant !
François Sorel.
Patrick Mulan.
Le sol est vivant, les amis. On va essayer de le rendre vivant. Avec notre dossier de ce samedi matin qu'on va attaquer dans un instant. Mais auparavant, on parlait de tomates il y a quelques minutes, des tomates bleues, mon cher Patrick. Et ça a inspiré Mickaël qui nous attend au 32-16 et qui a une question sur ce sujet. Mon cher Mickaël, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC. Alors Mickaël, avec son petit smartphone, est allé sur Direct Studio, envoyer sa petite question avec son numéro de téléphone, et il se retrouve sur RMC. Paf ! Vous voyez, ça marche quand même. C'est bien ça, Mickaël ?
Tout à fait.
Eh bien voilà. Vous nous appelez d'où ?
De Saint-Cyr-sur-Gironde.
Très bien. Et on vous écoute, Patrick Mulan vous écoute, Mickaël.
Alors moi, j'aimerais savoir si on peut mettre les plantes de tomates en fin de vie au compost.
Et pourquoi pas ? Ça dépend. Alors, le compost, il faut bien savoir une chose. On insère dans le compost que des plantes en parfaite santé.
Et oui.
C'est-à-dire que toutes les plantes qui ont été attaquées, par exemple, par des maladies comme le mildiou sur la tomate, etc., ça, bien entendu, on ne les composte pas. Alors après, effectivement, on pourrait se poser la question de savoir si la tomate, du fait de la toxicité de ces parties vertes, peut être compostée sans risque.
Pourquoi les parties vertes de la tomate sont toxiques?
C'est une solanacée, effectivement, comme toutes les solanacées, la partie verte est toxique. Et d'ailleurs, la tomate, lorsqu'elle est arrivée en Europe, elle était arrivée comme plante d'ornement. Les gens, sur le catalogue Villemorin de la fin des années 1700, on pensait que c'était donc une plante ornementale. Il a fallu attendre, oui, pratiquement entre l'introduction de la tomate en Europe et sa consommation courante, il a fallu un siècle pratiquement. Parce que famille solanacée, on craignait, etc. Et avec la couleur, etc. Bon, voilà. Donc, du coup, on peut se poser cette question, mais la réponse est simple, c'est que la dégradation, et on va d'ailleurs, ça va presque introduire le sujet suivant, c'est la dégradation par les micro-organismes des éléments naturels de la plante, donc qui va les transformer en compost, fait que les éléments toxiques vont disparaître. Donc vous pouvez composter des tomates sans problème. Bon, on ne fait pas du compost qu'avec des tomates, mais il n'y a pas de problème particulier. Et idem pour les fruits, par exemple, les fruits qui ne sont pas arrivés à maturité ou des fruits qui se sont dégradés naturellement. Quand vous avez un fruit, par exemple, qui a été cogné et qui s'est pourri, etc., vous pouvez le mettre au compost. Et bon, on va pas faire un sujet compost maintenant, on en fera un petit peu plus tard dans l'automne.
Bien sûr. Ouais.
Mais pensez à une chose, pour faire un bon compost, il faut un gros volume. Et pourquoi? Parce qu'il faut de la chaleur. Et quand cette chaleur qui est créée par les micro-organismes qui font la décomposition monte suffisamment, eh bien là, vous détruisez tous les germes pathogènes potentiels.
Oui. Voilà, Mickaël. Donc, vous pouvez mettre vos plantes tomates en fin de vie dans votre compost. Il n'y a pas de souci, Patrick.
Tous les restes de légumes, ça peut aller au compost.
Bonne journée, Mickaël. Merci pour votre appel.
Merci.
À bientôt. Et si tout comme Mickaël, vous voulez joindre Patrick Miolan, allez-y, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. En quelques minutes, vous pouvez questionner Patrick Miolan ou l'un de nos experts. Patrick, notre dossier de ce samedi matin, comment rendre son sol vivant? C'est vrai qu'on reste finalement dans le même type de sujet. Ouais,
hein. Parce qu'en fait, on va parler beaucoup de matière organique et de décomposition de la matière organique par des micro-organismes ou par les éléments vivants qu'il y a dans le sol. Alors, parce que quand vous regardez un vieux dictionnaire, la définition du sol, c'est, on vous dit que c'est généralement la couche superficielle de l'écorce terrestre. Et donc, on voit ça surtout dans son aspect minéral. Mais plus les études avancent en la matière, et plus on se rend compte que le sol est un écosystème à lui tout seul. Il y a une vie invraisemblable dans le sol. Alors, bien entendu, c'est pas forcément très spectaculaire. Mmh. On va dire que pratiquement, ce qui est le plus, on va dire que l'éléphant du sol, c'est la taupe. Vous voyez, gros mammifère du sol, c'est la taupe. Mais derrière ça, vous avez des vers, champignons, alors des champignons qui peuvent être gros ou microscopiques, des acariens, énormément de sortes d'insectes, des fourmis, des termites par exemple, des vers. Et pas, je dis pas simplement le lombric, le ver de terre, mais plein de vers, des sortes de vers extraordinaires. Et d'ailleurs, on estime que l'ensemble de la faune du sol représente aujourd'hui plus de 80% de la biodiversité animale connue et potentielle, et que les vers de terre, alors l'ensemble des vers qu'il y a dans le sol, constitueraient la première biomasse animale.
C'est dingue.
Du globe. Mmh. Donc, on les voit pas, on marche dessus, on n'y pense pas, mais ils sont extrêmement présent, extrêmement important.
Et on dit que 90% de la vie souterraine se concentre dans les 15 premiers centimètres du sol.
Vous avez raison, François, de remarquer cela, parce que ça montre que la partie superficielle est la plus importante et qu'il ne va pas falloir trop la bouleverser de manière à ce que tout ce petit monde-là continue à effectuer sa vie correctement. Donc ça, c'est une nouvelle notion qui va à l'encontre, on va dire, des grands principes de l'agriculture traditionnelle, qui continue d'ailleurs à utiliser les mêmes techniques. On voit encore en ce moment des gros tracteurs qui sont en train de labourer profondément. Nous, les jardiniers, on doit respecter cela et on doit travailler en douceur, plutôt légèrement, dans les 15 premiers centimètres, 20 centimètres au maximum, et pas faire des gros défoncements.
Alors justement, on parle de cette fameuse matière organique. Qu'est-ce que c'est qu'exactement cette matière organique?
Alors, la matière organique, c'est tous les éléments d'origine naturelle, alors qui peuvent être végétaux, les feuilles, les aiguilles de pin, les vieilles tiges, les racines, les morceaux d'écorce, les pollens, qui vont se décomposer, et également tous les déchets animaux, alors déjà les cadavres de tous ces petits éléments du sol, ou même, parfois même, de plus gros, un oiseau par exemple qui meurt,
qui va être attaqué,
ça va se décomposer, qui vont, tout cela sous l'action de micro-organismes, se dégrader et créer effectivement une matière qui va, en évoluant, devenir ce que l'on appelle de l'humus. Et là, c'est la partie vivante de notre sol.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'humus ? Tiens, rentrons un petit peu dans les détails.
Alors, c'est un des constituants principaux du sol. Dans un sol, vous avez quoi ? Vous avez de l'argile, du calcaire, du sable, de la silice, plus, donc, de la matière organique sous forme d'humus. Et cet humus, c'est donc la matière organique décomposée sous l'action de ces fameux micro-organismes. Donc c'est une matière qui ressemble vaguement à du terreau. Donc c'est noir, souvent, enfin très foncé, c'est souple, c'est aéré, ça absorbe et ça retient l'eau, et en général, ça a un pH plutôt un peu acide, mais ça peut varier en fonction donc de l'origine de cette matière organique.
Quel rôle justement joue cet humus dans le concept du sol vivant ?
Alors c'est une véritable éponge naturelle déjà, hein, c'est-à-dire que l'humus, lui, va absorber l'eau lorsqu'il pleut, éviter donc le lessivage et servir, on va dire, de garde-manger aux plantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va conserver les éléments minéraux qui sont utiles aux plantes. Parce que, attention, une plante ne se nourrit pas de matière organique, comme certains peuvent le penser. Mais l'humus, donc cette matière organique, elle se décompose encore en permanence et rejette, si je puis dire, des éléments minéraux qui, eux, sont absorbés par les racines, puisque les racines, c'est quoi ? C'est simplement des espèces de pompes. Les petits poils, qu'on appelle poils absorbants, eux, ne font que de pomper de l'eau dans laquelle sont dissous des sels minéraux qui servent à l'alimentation de la plante.
Est-ce qu'en regardant par exemple son sol ou en le sentant, déjà on peut avoir une petite indication de la qualité biologique de notre sol ?
Oui, bien sûr. Si vous avez un sol qui est déjà d'une couleur assez foncée et qui a une odeur un peu de sous-bois, alors attention, si ça sent trop le champignon,
ouais, c'est pas bon signe.
Ça peut être mauvais, notamment avec une attaque de ce qu'on appelle le pourrier, l'armillaire couleur de miel, où là on a vraiment une sensation de champignon. Ça sent exactement comme un champignon de Paris.
D'accord.
Mais l'humus, c'est autre chose. C'est la forêt. En fait, quand ça sent la forêt, quand votre sol...
La feuille un peu décomposée,
voilà,
enfin, tout
ça. Voilà, exactement. Là, vous êtes bien. Hein, de manière à se dire que là, on est dans un sol humifère. Alors, vous avez aussi le fameux rapport C sur N dont on parle souvent quand on est un peu dans la pédologie. C'est le rapport entre la proportion de carbone et la proportion d'azote. Et ce rapport C sur N, il doit être bas parce que ça vous donne que l'activité biologique est plus forte dans un rapport C sur N bas. Mais vous n'avez pas les moyens, en tant qu'amateur, de mesurer vous-même.
Voilà pour ce sujet passionnant, Patrick, et on va revenir dans un instant. On va poursuivre. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Je voulais dire surtout, rapidement. Donc, mettez de la matière organique régulièrement dans votre sol.
Voilà. Pour le rendre vivant. Voilà. 7h-20. Claudie sera avec nous au 32-16. Elle veut vous parler de ses agapantes, Patrick. Et puis, on retrouvera la météo du jardinier et les coups de cœur de Patrick Mellane pour terminer ce rendez-vous jardin. 32-16 pour nous joindre. À tout de suite.
RMC. Jusqu'à 7h. Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mellane.
Il est 7h-15, merci d'être avec nous, bon réveil avec RMC et un salut amical à tous ceux qui travaillent en ce samedi matin. On sait que vous êtes très nombreux à nous écouter et on est très heureux de vous accompagner dans un instant la météo du jardinier avec Patrick, mais auparavant c'est Claudie qu'on accueille. Bonjour Claudie.
Bonjour François, bonjour Patrick.
Bonjour Claudie.
Voilà, je vous téléphone au sujet des agapanthes.
Oui.
Voilà, on m'a offert 3 agapanthes. L'une qui, paraît-il, va jusqu'à moins 5 degrés pour le froid, l'autre jusqu'à moins 10 degrés pour le froid, et l'autre jusqu'à moins 15. et je voudrais faire un petit buisson avec les trois, les planter dans le jardin. Mais j'habite dans le Bourbonnais et j'aimerais savoir si cet hiver, c'est possible ce que j'ai envie de faire.
Alors méfiez-vous énormément de ce que l'on vous raconte au niveau de la rusticité, parce que la rusticité, c'est extrêmement relatif. C'est lié essentiellement à la durée du froid. Alors l'intensité, oui, mais le temps qu'il va y avoir cette gelée. Par exemple, d'accord. Une plante dite rustique à moins 15, elle peut mourir à moins 5 si moins 5, ça dure 3 semaines, par exemple. Bon, et c'est lié aussi à l'humidité. Les agapanthes sont des plantes originaires d'Afrique du Sud qui apprécient surtout les sols très drainants. Et en hiver, il faut vraiment, vraiment qu'elles soient dans une condition vraiment comme si elles étaient dans du sable, de manière à ce qu'il n'y ait absolument pas de stockage d'humidité, parce que sinon, les racines très charnues, là, les racines rhizomateuses, elles vont pourrir. Donc, dans l'Allier, moi, je ferais très, très attention à plutôt les mettre en pot. Parce que c'est plus facile d'envelopper un pot avec, on va dire, des voiles d'hivernage ou toutes les protections qu'on peut trouver, plutôt que de travailler au niveau du sol. Parce que ça dépend quel est le type de terrain. Mais enfin, moi, je connais un peu l'Allier, j'ai de la famille du côté du Moulin. On a quand même des sols qui sont bien costauds. Hein,
alors évidemment, en ce moment, ils sont terriblement secs, mais ça ne sera pas longtemps le cas. Et il n'y a pas de possibilité que je puisse les mettre en pleine terre avec des protections.
Alors moi, je ferais dans ces cas-là, si vous voulez absolument les mettre en pleine terre, faites une butte. Au lieu de les mettre directement dans le sol là, vous faites une butte avec un sol caillouteux, sablonneux, etc. Là, qui sera vraiment très drainant et doublement drainant parce qu'en plus, la pluie ruissellera le long de la butte et vous pourrez les protéger. Alors, on met souvent une bonne couche de feuilles. Vous mettez une quinzaine, vingtaine de centimètres d'épaisseur de feuilles mortes. Si le sol est très drainant, vous avez des chances que ça revienne. Et puis, de toute façon, ça sera une expérience également. Et à ce moment-là, ce sera intéressant de venir nous raconter ce qui s'est passé au début du printemps, si ça repart ou si ça repart pas.
Ah bon, parce que ça peut quand même ne pas repartir.
Ah bah si,
quelle est la température qu'elles ne supporteront pas?
En général, c'est entre moins 6 et moins 8, dans des conditions normales, là, ça commence déjà à les agresser sérieusement.
Le problème, c'est que s'il y a plusieurs jours à moins 6, moins 8...
C'est pas aussi simple que ça.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est un ensemble de conditions, il faut éviter les vents dominants.
J'imagine le taux d'humidité aussi qui joue. Le taux d'humidité doit jouer aussi.
Ah bah absolument, c'est ce que je disais, il faut mieux que ça soit sec. Donc essayez de faire ça dans un endroit qui ne reçoit pas les vents dominants, parce qu'il faut que la plante elle soit vraiment dans un petit cocon, bien exposée à la lumière pour qu'elle fleurisse bien. Et puis, tentez le coup, mais ce n'est pas la plante de l'Allier la mieux pour cultiver. Hein. La agapanthe, c'est quand même un petit peu frileux.
6h49, c'est RMC, la météo du jardinier maintenant, monsieur Patrick. Alors, on rentre tranquillement dans l'automne, hein, gentiment, mais sûrement. Qu'est-ce que ça donne côté météo pour la semaine qui vient pour le jardinier?
Alors, on va avoir des vents plutôt de sud-sud-ouest, donc on va rester dans des relatives douceurs, puisque les levées du jour seront entre 10 et 20 degrés selon les régions. Et on va avoir quand même plutôt des entrées maritimes, des pluies qui vont demain arriver par la Bretagne, le Cotentin, etc., décaler vers l'est. Et puis, dans les journées, on aura vraiment une sorte de temps un peu estival. À minima, on aura 17-18 degrés, et à maxima, on aura entre 26 et 27 degrés. Alors moi, je vais que jusqu'à mercredi, parce que ensuite, Météo France avait un indice de confiance de 2. Déjà, quand c'était 3, c'est un peu 3 tout le temps, donc on n'est pas sûr. Mais on va dire, pour simplifier, qu'on est dans un temps variable. Alors, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à travailler au jardin, notamment commencer à planter vos bulbes de printemps, quelques misannuelles. On va commencer à trouver des pensées, par exemple, dans les jardineries. Et puis, c'est le grand début des plantations. Alors, on peut commencer par les conifères, par les rhododendrons. On fait les fraisiers, par exemple, aussi. C'est le bon moment. Et puis, pensez aussi à nourrir les plantes. On pense jamais à apporter de la nourriture en automne. C'est plus l'azote qui est nécessaire en automne, mais tout ce qui est phosphore et tout ce qui est potasse, bien, par exemple, sur les fraisiers ou même sur les gazons, c'est tout à fait important et intéressant.
Patrick, on arrose toujours autant ou pas?
Alors, dans les régions où il n'a pas plu du tout, par exemple en Île-de-France, les jardins ont été bien réimbibés. Donc, je pense que sur la moitié nord, en moyenne, ça a été bien. Sur le sud, il ne pleut pas, il ne pleuvra pas.
Oui. Toujours sur on a encore des conditions estivales. Hein,
donc, on est vraiment dans la période été. Bien sûr, il faut continuer à arroser parce que sinon, les plantes déjà rentrent en dormance. Il y en a même qui sont rentrés en dormance en plein milieu de l'été, ont perdu leur feuillage, etc. Alors tiens, juste un conseil comme ça, rapidement. Si vous avez des végétaux qui, de façon précoce, se sont débarrassés de leurs feuilles, ne les éliminez pas. Attendez à minima l'année prochaine pour voir comment ça va redémarrer. Parce que souvent, la plante, elle le fait pour se protéger.
Bien sûr.
Alors, elle vous donne l'impression qu'elle est en train de crever, mais c'est pas vrai.
Ouais, ouais. Elle se dit, OK, bon, ça y est, j'ai tout donné, là. Je me repose et je reviens l'année prochaine.
Bah, surtout, j'en peux plus. Donc, on va essayer de s'endormir pour être tranquille. Voilà, c'est ça.
C'est ça. C'est un peu comme nous quand on est fatigué, quoi.
Oui, oui.
6h51, Patrick. On va terminer ce week-end des experts jardins par vos coups de cœur de cette semaine.
Alors, déjà, ce week-end et le week-end prochain dans les magasins botaniques, c'est la collecte nationale des pesticides. Donc si vous avez des produits qui sont désormais interdits, vous pouvez les rapporter à la jardinerie. C'est toujours utile et on vous donnera des pommes. On va vous donner des pommes bio en échange. Bon, c'est sympa, mais en tous les cas, c'est efficace parce que maintenant, on ne sait plus trop quoi en faire de ces trucs-là. Bon, la Saint-Jean-de-Bourgard, c'est la fête du moment dans l'Île-de-France. C'est dans le sud, hein, c'est vrai, en Essonne, c'est une super fête. Il y a au moins 250 professionnels qui sont là. Il y a des fruits et des légumes. Le potager est magnifique. Il y a plus de 1500 variétés de tomates exposées. Il y aura des bleus, hein, je pense. Donc vous pouvez aussi avoir des graines. Il y a des conférences, bien entendu. Et puis, tiens, un bouquin magnifique qui s'appelle Humanité végétale, qui est sorti chez Actes Sud. C'est un photographe qui s'appelle Mario Del Curto qui a fait ce livre-là. Et en fait, pendant 10 ans, il a parcouru le monde pour découvrir, en fait, la nature jardinière du monde. C'est drôle, mais en fait, c'est comment l'humain a façonné notre planète avec du végétal. Donc, c'est vraiment l'idée d'un très beau livre. Beau truc pour faire un cadeau de fin d'année. Donc, je vous rappelle, donc, Humanité végétale chez Actes Sud. Et puis, tiens, un dernier pour terminer, les abeilles mellifères à l'état sauvage avec Vincent Albouy, que notre entomologiste préféré,
oui,
qu'on reçoit souvent
ici,
aux éditions du Terrain. Là, il apporte une idée nouvelle de ce que sont les abeilles à l'état sauvage et pas les abeilles dont on a déjà parlé, les abeilles qui vivent seules. Là, les abeilles mellifères. Donc, comment elles vivent, et il y a plein de choses extrêmement intéressantes sur leur comportement et notamment sur leur manière de se nourrir. Voilà, voilà.
Monsieur Biumiou, on sera là samedi prochain, 6h-7h.
Ça sera un plaisir, les jardinières. Je vous embrasse, ma petite jardinière aussi, comme d'habitude. Et je vous dis, bien sûr, à la semaine prochaine.
Vous embrassez jamais les jardiniers, j'ai remarqué.
Bah, je vous embrasse, vous.
Ah, ça va. Alors, d'accord. Mais bon, je suis pas un excellent
c'est
jardinier.
C'est une idylle qui se noue en
direct. Oui, mais c'est la lumière, s'il vous plaît. Bon.
J'ai mis le temps pour vous déclarer.
Mettez un peu de... Mais Christian, que faites-vous dans ce studio? Laissez-moi avec Patrick, tranquillement.
Mais bien sûr.
Oh, depuis toutes ces années.
Vous avez donné des coups de marteau.
C'est une longue amitié. Patrick, donc, sera là la semaine prochaine et dans un instant, avec sa petite pointe de jalousie, Christian Pestier.
Oui, je suis là.
Pour la maison. Une heure dédiée à la maison avec vos questions bricolage maison au 32-16. À tout de suite après la météo et les infos.